Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'avoir dans nos studios de la rue d'Assali à Toulouse, Monique Lise Cohen. Monique Lise, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Merci beaucoup d'être venue une fois de plus dans ces studios qui te sont maintenant bien familiers.
Oui, oui.
Et s'ils te sont familiers, c'est que à chaque fois que tu nous as fait cette visite, c'était moins une visite de courtoisie qu'une visite de présentation. C'est-à-dire que tu venais nous livrer un nouvel ouvrage. Et en définitive, les ouvrages s'accumulent.
Oui, hein, t'en fais pas mal. Oui, ça fait
je regardais, tu as déjà une bonne place dans ma bibliothèque.
Oui.
Et bon, c'est un ravissement tout cela. Et donc l'ouvrage que tu vas présenter donc ce soir, qui est un très beau livre, hein, un très beau livre, vraiment très très bien fait. Publié aux éditions Horizon, Horizon sans H, qui est animé par notre ami Daniel Cohen, pour lequel d'ailleurs nous avons fait une émission, puisque lui-même est également auteur. Donc Monique Lise Cohen, Les Juifs font-ils du cœur, une intime extériorité, c'est dans la collection Débat philosophie. Alors si tu le veux bien, Monique Lise, nous allons parler de ce livre dans quelques instants, car je voudrais faire quelques annonces. Nous recevons évidemment beaucoup de livres, beaucoup de livres de poésie, mais pas que. Nous recevons des CD. Nous ne pouvons pas, bien sûr, chaque semaine, rendre compte de l'ensemble de ce que nous recevons. Mais dans la mesure du possible, nous allons nous efforcer, bien sûr, d'en rendre compte, ce qui me semble être la moindre des choses. Et nous consacrerons des émissions uniquement à ces publications. Car, contrairement à l'idée faussement répandue, la poésie se porte bien en France. Et les publications de poésie de qualité, hein, je parle vraiment de poésie de qualité, hein, sont multiples, diverses, mais souvent très intéressantes. Alors, nous allons commencer cette présentation par peut-être un éditeur qui s'appelle l'Atelier de l'Agneau. Alors, l'Atelier de l'Agneau, il est chez notre voisin, c'est-à-dire en Aquitaine, dans la région de Bordeaux. Hein, et il publie tout un tas de livres intéressants, dont celui-ci que j'ai retenu de Jean Esponde, La crête d'Ariane et Minos. Alors c'est un très beau livre qui est très bien illustré, très bien fait. Et de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'un récit géopoétique. Le récit, alors il y avait déjà l'autofiction, la fiction d'Yves Charnay, etc. Maintenant on est dans la géopoétique. Alors, ce récit concernait les origines de la Grèce classique, Éphèse et l'exil d'Héraclite, et nous étions au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, quand l'auteur de ce livre, Éphèse et l'exil d'Héraclite, c'est-à-dire Jean Esponde, publiait donc ce livre. Et maintenant, il récidive avec toujours ce récit géopoétique qui s'appelle la crête d'Ariane et Minos, hein, le fil d'Ariane. Nous remontons 15 siècles. Ici, le narrateur rencontre une civilisation sensuelle, un art et une société rares, sommet de l'âge du bronze, nature, déesse mère, amphores, fresques murales, bijoux et objets quotidiens d'une beauté étonnamment moderne. Au milieu de la Méditerranée, une autre Grèce avant la Grèce, monde crétois, confronté à l'image qu'en ont donné 1000 ans plus tard Homère, Hésiode et la mythologie grecque avec Thésée et le Minotaure. À Gnossos ou Phaestos et dans les paysages crétois, poème relayant la prose. C'est un dialogue entre Homère et un Minos éberlué, ou Ariane en venant quasiment aux mains avec Plutarque, un autre fil donc. Alors, à signaler que Jean Responde a publié donc ses livres géopoétiques en parallèle avec des, ce qu'il appelle aussi des non-biographies sur l'Afrique de l'Est, Harare et Rimbaud, la Chine et Ségalen, ou encore un récit qui concerne Roland Barthes. Il est aussi l'auteur de deux romans, La mort de Roland et Lucie, moins 3 millions. Voilà, c'est aux éditions de l'Agneau, l'atelier de l'Agneau. Voilà, je vais peut-être lire un tout petit extrait. Tu n'es pas recouverte d'oripeaux romains, première ville aux danses lunaires, aux jongleurs de taureaux, cité de la grande mer haute d'Europe. On t'a laissé en paix, les hommes entreprenants préfèrent l'affairement du port, les fructueuses affaires, la mer houleuse, les guerriers. On t'a confié à la douce enceinte des cyprès, le mur est en place et les griffons jaunes. Knossos des arts, des palais, des festivités, et dessous l'ancien palais, autour l'antique colline de Kefala, et dessous l'agglomération néolithique où habitaient des femmes et des hommes. Je ne saurai jamais qui. C'est pour donner le ton de ce livre qui est très intéressant. D'abord, il était intéressant sur le plan de la littérature, de la langue, et il est intéressant, bien sûr, sur le plan de l'histoire. Hein. C'est de Jean Esponde, La crête d'Ariane et Minos, à l'atelier de l'Agneau, et ça coûte 15 euros. Et puis, l'atelier de l'Agneau qui publie sa revue, L'Intranquille. C'est une revue de littérature, belle revue, hein, belle revue. Le numéro vaut 15 euros, c'est peut-être un peu cher quand même pour une revue. J'ai retenu ceci, c'est assez, comment dirais-je, un peu décoiffant, comme diraient les jeunes actuellement. Hein, c'est une lecture un peu underground, mais bien faite et toujours quand même de qualité. Il y a un texte d'un certain Eric Von Neff qui vit à San Francisco, aux USA. Et cet auteur, il a 76 ans et il est docker encore. Il est obligé de travailler. Après des études universitaires de philosophie à San Francisco et en Écosse, il publie dans pas mal de revues en Europe, dont celle de l'atelier de l'Agneau, comme M25 et Chroniques errantes. Peu à peu, sa poésie de Eric Von Neff s'oriente vers une autofiction, là on trouve encore un genre qui plairait à Yves Charnay, très documenté sur ses amis, leur lieu de vie, son enfance, sa famille philippine, les pauvres, les gens de couleur, les mendiants, les prostituées, etc. Une mine d'informations sur une façon de vivre aux USA. Il répète des vers comme en refrain et trouve une musique à ses textes. Au départ, considérés comme des portraits, des histoires. Il émane souvent une certaine sagesse de chaque texte et cette poésie narrative. Alors, la poésie narrative, tu le sais, c'est une des poésies que je préfère. Hein. La bière San Miguel et l'angoisse. Alors, la bière San Miguel, c'est une bière espagnole, comme le sait très bien notre ami Claude, qui est un grand consommateur de bière San Miguel. John Sullivan m'a passé un bidon de peinture blanche et un pinceau. Tout le clan Sullivan peignait sa maison, pendant que Loretta, la femme de John, sa fille Regina et les autres irlandaises faisaient la cuisine pour eux. Je peignais le dessous des marches, un travail pour un garçon de 7 ans. Arrivant aussi haut que je pouvais depuis l'escabeau, puis travaillant de haut en bas, les Irlandais riaient. Les hommes libérés de la Seconde Guerre mondiale, l'odeur de la bière San Miguel, fournie par mon grand-père. Quand j'en suis arrivé à peindre sous la marche du bas, il y avait des araignées dans leur toile, avec leurs mouches entortillées. « John, ai-je dit, il y a des toiles d'araignées, comment je les vire ?» John Sullivan a saisi mon pinceau et a collé la peinture, aplatissant les araignées, aplatissant les toiles, aplatissant les mouches, toutes peintes en blanc désormais. Les araignées, les toiles, les mouches, peintes sur le dessous des marches. C'était une chaude journée d'août. La peinture a vite séché et la bière San Miguel a été bue et la maison a bientôt été peinte, et l'énergie de la guerre était encore là, elle laissait des traces légères, elle laissait des marques qu'on ne voyait pas. Voilà, j'aime beaucoup ce texte-là, ça me fait penser un petit peu à Bukowski dans un genre plus soft. Alors, c'est dans la revue L'Intranquille, numéro 9, des ateliers de l'agneau. Voilà pour cet éditeur, et puis notre éditeur toulousain, qui publie. Alors, il publie d'abord un truc absolument remarquable, que je n'ai pas amené, puisque ça fera l'objet quand même d'une émission particulière. C'est une édition, ça s'appelle « Polisseur d'étoiles ». C'est de Federico Garcia Lorca. C'est extrait d'un de ses, le titre est extrait d'un vers d'un de ses premiers poèmes, Polisseur d'étoiles. Et c'est l'œuvre poétique complète en français, donc de Lorca, avec des encres d'Anne Jaillette, dans un petit format, très portable, très, très facile, hein, ce format, avec une traduction de Daniel Faugeras, qui est la directrice d'ailleurs de la collection Poepsie des éditions RS. Alors c'est un livre qui fait plus de 1100 pages et qui vaut 25 euros, une somme qui me semble dérisoire pour vraiment la publication que c'est. Donc nous en reparlerons, mais d'ores et déjà, je voulais le signaler pour que ça soit dans le compte-rendu de cette émission. C'est déjà en ligne sur notre site les-poètes.fr, hein, vous pouvez le voir là et le commander. Et alors ces émissions RS avec Daniel Faugeras, qui est la directrice de la collection Poepsie et qui publie ses petits livres dans des étuis, hein, en carton, très agréable, fait paraître deux titres, dont un de Malcolm de Chazal, Humour Rose. Alors, c'était très curieux, parce que au moment où je recevais Humour Rose de Malcolm de Chazal, j'avais exhumé de ma bibliothèque un livre qui s'appelle La vie filtrée de Malcolm de Chazal, et c'est un livre, c'est une édition originale de 1949, je te la montre là, hein, 1949, parce que il y avait, je voulais donc revenir un peu sur cet auteur qui me semblait oublié, j'avais tort, hein, puisque un éditeur toulousain qui plus est exhume des textes qui sont comme des haïkus, là, des textes très courts, Humour Rose de Malcolm de Chazal. Parce que je voudrais savoir ce qu'il pensait de la poésie. Un des buts majeurs de la poésie, dit-il, est selon moi de créer des pentes dans les mots, d'entailler des glissières dans la langue pour faire passer et ruisseler au dehors la sensation. La forme poétique n'est point, à mon sens, ainsi que le croient les poètes courants, un moyen d'enclaver, de retenir ou d'enchaîner la sensation, car je me sers d'autres vases pour cela, ma forme même d'écrire, qui n'a rien à voir avec toutes les formes de littérature usuelle, et qui rétrovase l'idée en prenant la sensation comme point de départ et l'idée comme point d'arrivée. Mon mode d'écrire est sensation pure, ma prose est corps fleuve de sensations et par conséquent n'a nullement besoin de devenir sensation car elle l'est. Voilà.
C'était assez intéressant. Oui,
mais ce que
j'ai
trouvé ahurissant, c'est au moment où c'est quand même difficile à lire ce livre, en tout cas, j'ai mis du temps. La vie filtrée de Malcolm de Chazal, de trouver Humour Rose de Poepsie, dans la collection Poepsie. Alors, voici ce que l'éditeur dit, c'est Daniel Faugeras, donc Pascal Jeannot qui dirige ça. Alors, ce sont des petits textes, hein, comme toujours.
Ah ouais.
Hein, c'est de, par exemple, l'espace a pour seule clé le regard. La pluie laissa tomber sa ceinture dans l'onde de la vague. Le baiser est le sein de la femme, hein, et le sein qui tète. L'orage est le cri d'angoisse du feu. Voilà. Il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Hein. C'est vraiment très, 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 très agréable. Le crucifié se convertit. Le crucifié se convertit. Les écrivains, disait Freud, sont de précieux alliés et il faut placer bien haut leur témoignage, car ils connaissent d'ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse et l'école n'a pas encore la moindre idée. Ils nous devancent beaucoup, nous autres, hommes ordinaires, notamment en matière de psychologie, parce qu'ils puisent à des sources que nous n'avons pas encore explorées pour la science. Voilà. Alors, parmi ceux-ci, et dans cette collection, donc, se propose de faciliter l'accès à des œuvres poétiques selon l'axe qui vient d'être défini, sans limitation d'époque ni de lieu, privilégiant des formes ou anthologies brèves, dans la seule exigence de qualité des textes et leur présentation. Alors, très vite, Malcolm Chazal, il est né en 1902, il est mort en 1981, il est né en l'île Maurice, où il a vécu toute sa vie, à l'île Maurice. C'est un artiste intégral, hein. Il est l'auteur de près d'une centaine d'ouvrages. La publication à Paris en 1948 de Sens plastique, son grand œuvre, lui valut d'être qualifié d'écrivain de génie. Mais il fallut attendre 20 ans pour qu'une partie de son œuvre soit à nouveau disponible pour l'édition française. Le présent recueil, donc qui est inédit en France, a été écrit entre 1940 et 1949, l'année où ont publié La vie filtrée. Je ne crois pas d'ailleurs que cet été repris. Donc ce livre que j'ai là, sur la table, La vie filtrée, est un livre précieux. Et enfin, donc toujours Poepsie, de Kenneth Rexroth. Alors, je prononce très mal l'anglais. Les poèmes d'amour de Marie Chicot, aux éditions IRES, toujours. Hein. Kenneth, alors, lui, qui c'est Kenneth Rexroth, ça s'écrit R-E-X-R-O-T-H. Il est né en 1905, il est mort en 1982. C'est un essayiste, c'est un poète et traducteur. Il fut l'un des premiers, dès les années 1930, à acclimater la poésie classique d'Extrême-Orient aux États-Unis. Ses intérêts multiples et variés pour la littérature et les arts, sous-tendus par une culture universelle, anti-académique et libertaire, lui ont valu d'être considéré comme le père de la Renaissance de San Francisco, ce mouvement des années 1940-1950 qui accueillit les beats. Génération, donc la beat génération Kerouac, Ginsberg sur la côte ouest. Donc ça plairait beaucoup. Ceci plairait beaucoup, Ginsberg, etc., à notre ami Serge Paye. Les poèmes d'amour de Marie Chicot, donc de Kenneth Rexroth. C'est traduit de l'anglais par Joël Cornu, avec dessin de Katushiya Okuzaye. Chaque matin, je me réveille seul, rêvant que mon bras est ta chair douce qui presse mes lèvres. Je suis triste ce matin, le brouillard était si épais, je n'ai pas pu voir ton ombre comme tu passais derrière mon chouchi. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, alors c'est tout à fait original, très intéressant, donc dans ce style donc, qui a été ensuite devenu très, très célèbre, et de la Beat Generation. Hein. Ce sont des textes très courts aussi, et ça coûte 12 euros comme le précédent. Voilà, alors si vous le voulez bien, nous allons écouter un poème de Lorca, qui est Arco de Lunas, qui a été mis en musique par quelqu'un dont nous parlerons bientôt ici, que peut-être tu connais, c'est Gérard Zucchetto. Est-ce que tu connais Gérard Zucchetto? Il fait un travail magnifique sur les troubadours depuis 30 ans, mais également il chante en séfarade avec sa femme. Il chante en espagnol, en occitan, en catalan, etc. Voilà. C'est absolument magnifique. Nous en parlerons. Alors, cet extrait d'un CD qui s'appelle Poète du Sud de Gérard Zucchetto et Sandra Hurtado Ross, donc sa femme, qui est ténor, qui chante, soprano, pardon, chante très bien. Et donc, on va écouter ce texte de Federico Garcia Lorca. Rappelons que Lorca est né le 5 juin 1898 à Fuente Vaqueros, Granada, et qui a été fusillé à Granada le 19 août 1936. On l'écoute. Thank you.
horas. Hablo con desespera, mis gritos se hacen largos. Hablo con desespera, mis gritos se hacen largos.
Voilà, c'était donc Gérard Zucchetto qui nous interprétait donc ce poème de Lorca, Arco de Lunas. Alors, revenons à Monique Lise Cohen qui fait paraître aux éditions Horizon « Les Juifs ont-ils du cœur ?» avec un petit sous-titre « Une intime extériorité ». Alors, tu as publié « Les Juifs ont-ils du cœur » il y a déjà quelques années.
Oui, hein,
c'était
en 92.
92,
ça, 25 ans, oui.
Donc, tu republies ce livre, mais avec un sous-titre qui n'était pas dans le précédent, hein, « Une intime extériorité ». Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? D'abord, pourquoi tu as repris ce livre et pourquoi il y a ce sous-titre?
Alors, j'ai repris ce livre pour, disons, deux raisons essentielles. La première, c'est que depuis que j'ai fait mon doctorat avec Henri Méchonic, le thème de l'émancipation des Juifs, archéologie de l'antisémitisme, qui a été publié, donc que j'ai soutenu en 1989, et qui a été publié en 1992 par les bons soins et toute l'attention de Jordi Blanc aux éditions Ventérales. Depuis 1992, je n'ai cessé de travailler sur cette question du cœur, qui s'est déclarée à moi, qui s'est ouverte à moi, et tous les autres livres que j'ai publiés, et la question du cœur est présente. Et puis aussi également tous ces travaux que nous avions fait à l'Institut catholique où nous avions créé une unité de recherche sur la circoncision du cœur. Je crois qu'on a fait ensemble une émission sur le livre sur la circoncision, puisque ce qui nous lie juifs et chrétiens, c'est le thème de la circoncision du cœur, le commandement de la circoncision du cœur, parce que le cœur en gros, n'est pas bon, contrairement à ce que disent les Lumières, et il doit être circoncis. Ça, tu l'as dans la Bible hébraïque, dans le Nouveau Testament. Donc, je n'ai cessé d'y travailler, et j'ai des classeurs chez moi, des quantités de classeurs, où je prends des notes, des cahiers, des classeurs, où je classe toutes sortes de documents. Dans l'idée, j'avais l'idée vague, lointaine, de faire un livre magistral sur la question. Et puis, ça s'est accéléré, parce que la deuxième raison, conjoncturelle, mais tout aussi profonde que l'autre, c'est mon éditeur Daniel Cohen, que tu as cité. Il m'a dit, tu devrais republier ton livre, Les Juifs ont-ils du cœur? Alors, j'ai dit oui, quoi. Parce que tu sais, Daniel, c'est un éditeur, un vrai éditeur. Il dit lui-même qu'il a une relation mystique avec ses auteurs. Et quand il te dit quelque chose, c'est une inspiration puissante. Et tu l'écoutes et tu es touché par ce qu'il te propose très profondément. Donc, ce nouveau livre que j'ai publié ne tient pas compte de la totalité des notes que j'ai prises sur la quinzaine de classeurs et de cahiers remplis de notes et de références. J'ai même, au fur et à mesure où je l'écrivais, j'oubliais de consulter mes classeurs. C'est une aventure, comme disait Méchonic, une praxis aveugle. C'est comme ça qu'il appelait la prophétie. Et le sous-titre est précisément quelque chose de Méchonic. C'est une discussion que nous avions eue en privé en 2002, un dimanche, le jour du Forum des langues à Toulouse, on parlait de la circoncision et on avait élaboré ce concept que lui-même avait déjà élaboré, mais pas forcément à propos de la circoncision. D'ailleurs, je le mets en exergue de mon livre, c'est Mechnik qui dit dans l'utopie du juif, j'ai à dire un intime extérieur. Voilà. Et on avait appelé la circoncision, dans cette discussion privée entre lui et moi, une intime extériorité. Il était très content, et moi j'étais très contente. Et voilà, c'est un nouveau chemin, une nouvelle étape dans un hommage à Henri Mechnik. Ce sous-titre, étant donné que tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a enseigné, tout ce que j'ai appris avec lui, ce que j'ai pu écrire grâce à lui, c'est une inspiration permanente.
Mechnik, hein, qui était très souvent présent à Toulouse, en tout cas, qui venait à ce
chaque
forum
année,
chaque année, il était là au Forum des langues, qui avait été l'initiative de Claude Sicre. Qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs.
Oui, le 29.
Le 29 mai, ici, place du Capitole à Toulouse, et qui est un de tes grands maîtres, et qui est avant tout, quand même, aussi un des grands poètes.
Hein, oui, un grand
des grands poètes de langue française, un des grands théoriciens aussi de la poésie. Qui a avancé donc une conception de la poésie et de la poétique, l'art poétique très important, qui a été publié chez Gallimard, et puis qui est bien sûr un des grands traducteurs de la Bible.
Oui. Et si je peux te confier quelque chose, avec des amis occitanistes, à la Maison des Associations, avec David Brunel, que tu connais, depuis 4 ans, nous lisons tout Mechnik.
Ah oui.
Et on se voit une fois par mois, et on lit tout Mechnik. Ça arrive des fois qu'on ne lise pas le livre en entier, mais il y a quelqu'un d'autre pour le... On a fait un effort de lecture inouï, et on se rencontre chaque fois à quel point il est devant nous, Henri Mechnik. Parce qu'on déchoit de cette exigence à laquelle il nous appelle. On a fait un grand effort de lecture.
Alors il devait... Normalement, on aurait dû faire une émission avec lui, Le destin a voulu qu'il décède avant. Hein. Il avait envoyé un message, etc. Tout était... On devait travailler un peu ensemble. Et puis ça s'est pas fait parce qu'il nous a quittés un petit peu trop vite. Mais par contre, si tu le veux bien, c'est une petite digression par rapport à l'émission de ce soir. Mais ce serait très intéressant de consacrer une ou deux émissions à Henri Mechnik.
Ah oui, tout
et
à fait.
Je serais bien
oui.
content que tu, ouais. tu m'accompagnes dans cette démarche.
Ah ce oui, 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 ça sera merveilleux.
C'est avec toi que j'aimerais bien faire
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Donc rendez-vous est pris. Alors, on va d'abord peut-être, Monique Lise, tu parles du cœur, mais donc l'invitation à suivre son cœur, qui apparaît dans tous les discours, l'on nous rabâche de partout, dans tous les médias, etc.
Oui,
cette problématique du cœur, je voudrais que tu en dises un mot avant de poursuivre quand même. Avant de...
Eh bien, oui, cette problématique, le cœur est bon, qui est devenu un langage très, très populaire, kitsch partout, si tu veux choisir une banque ou un opérateur internet ou n'importe quoi, il y a un petit cœur ou un coup de cœur pour aller s'acheter un bouquet en librairie ou autre chose, hein, une paire de chaussures, c'est voilà. Et ça, en fait, c'est passé dans le langage populaire depuis la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, qui sous la plume d'Emmanuel Kant, Diderot, de Rousseau, pour citer les plus grands, a développé l'idée d'une religion du cœur, appelée aussi religion naturelle ou religion rationnelle, qui serait la religion universelle de l'humanité, une religion qui a cette caractéristique d'être sans texte, et sans révolution, sans révélation, mais c'est pareil. Révolution, c'est revenir toujours. C'est la révolution solaire. Oui, on revient, le serpent qui se mord la queue. Donc une religion où il ne se passe rien, sinon la transparence immédiate du cœur par où le divin fusionne avec la nature. Et surtout pas de texte, surtout pas de texte. Et j'ai analysé ce chemin du cœur dans l'évolution de la pensée occidentale, mais déjà d'ores et déjà de la philosophie des Lumières, comme étant un chemin d'autodivinisation. J'ai pas de compte à rendre. Mon cœur est bon et je suis mon cœur. Or là, c'est une rupture absolue. La Bible dit exactement l'inverse. La Bible hébraïque, comme le Nouveau Testament. Jésus dit tout le mal vient du cœur. Dans les commandements de la Bible hébraïque, il est dit, ne suivez pas le chemin des yeux, le chemin du cœur, après lesquels vous vous prostituez. Le chemin du cœur étant le chemin de l'apostasie. Et je te laisserai une série de citations. Tiens, je te les donne, mon ami. Voilà. Ça, ce sont des citations essentiellement bibliques. Et donc, la Bible dit, le cœur, c'est le lieu de l'auto-justification. C'est-à-dire, j'ai pas de compte à rendre. Je suis seul. Tout vient de moi. Tout vient de moi, il n'y a pas d'altérité. Donc on pressent ici que c'est absolument différent de ce que Emmanuel Levinas nous enseigne sur la question de l'altérité. Et donc le chemin du cœur, la Bible dit non, parce que la Bible nous propose le chemin de l'altérité, non pas pour s'effacer soi-même, mais pour être dans un dialogue. Et les textes bibliques sont très clairs. Les psaumes disent, le méchant dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc l'intériorité du cœur est le lieu du risque de l'oubli de l'altérité de Dieu, de la réalité de l'altérité de Dieu, et donc de toute altérité, puisque Dieu, c'est le paradigme de l'altérité. Alors, voilà, nous en sommes là, dans une société où il y a aujourd'hui une civilisation où il n'y a pas de compte à rendre. Tout ce qui vient de soi-même serait bon, il faut laisser faire son cœur. Et face à ça, l'immense fresque biblique qui dit non, le cœur n'est pas bon, il doit être corrigé, et cette correction s'appelle circoncision. La circoncision, c'est pas c'est pas une ouverture complète, c'est une intime extériorité, c'est pour laisser place à un autre que soi.
Bien, dans le problème est bien posé. Bon, j'espère qu'on sera entendu, compris, parce qu'il faut pas faut vraiment le comprendre dans le bon sens. On peut faire des contresens, hein, sur.
C'est-à-dire que les gens font des contresens, ouais, voilà, sur ce que j'ai écrit.
Faut faire très attention à ça.
Ouais, ouais, ouais. Hein? Parce que il faut. Henri Michonnik était très heureux de mon travail. Il m'avait dit que c'était un travail philologique que j'avais fait, un mot à mot. Oui, j'ai rien inventé. Hein, c'est pas, on m'a reproché d'avoir une opinion sur telle ou telle chose. Non, j'ai étudié mot à mot ce que disent Kant, Rousseau et Diderot sur la question du cœur, la religion du cœur.
Alors, je disais ça, attention, il ne faut pas qu'il y ait de contresens, mais c'est vrai que lorsque cette thèse de doctorat a été publiée en 92, hein, il y a eu un profond malentendu.
Alors, un malentendu terrible, parce que, enfin, les gens n'ont pas lu ce livre, et on me disait, ah oui, on sait très bien ce que vous, je connais le truc là, oui, vous êtes contre les droits de l'homme. Et vous êtes pour le droit à la différence, style la nouvelle droite, tu sais, Alain de Benoît, le club de l'horloge et Potin Couffin. Mais je ne parle pas de ça dans ce livre, je ne parle pas de ça, et je devais me justifier sur un terrain de choses que je n'avais pas écrites. Et ouais, on connaît très bien, mais pas du tout. Moi ce que j'analysais, c'était ce que les encyclopédistes et les philosophes disaient du chemin du cœur, le risque d'autodivinisation, et le fait que dans leur doctrine, l'antimodèle de cette religion du cœur, ce sont les juifs. Pourquoi ? Pas sur la question des droits de l'homme, pas du tout. Mais parce que ce qui est reproché aux juifs, c'est d'écrire tout le temps. Donc, et que l'écriture, bon, on connaît la, toute l'étude qu'avait fait Derrida sur, dans la grammatologie, sur la, le refus de l'écriture. Dieu merci par des gens qui écrivent très bien, comme Rousseau. Rousseau qui disait que ça vaut rien l'écriture, et puis ça, ça date de Platon, dans le Cratyl. L'idée qu'il y a d'abord la pensée pure, que la parole copie la pensée, et que l'écriture copie la parole. Donc l'écriture est une dégénérescence par rapport à la pensée vive. Et quand on écrit, on est dans un mensonge permanent. Or les Juifs écrivant tout le temps sont dans le mensonge permanent. Donc comme cette religion du cœur est une religion sans texte, eh bien, il ne faut pas faire comme les Juifs. Et là, j'ai vu la naissance de l'antisémitisme à la différence de l'ancien antijudaïsme de l'Église. Mais ce malentendu a été tellement obscurcissant, comme des coulées de béton, que, à part toi, quelques amis, tu vois, je ne pouvais pas parler de mon livre. Parce que tout le monde savait ce que j'avais écrit, mais je n'avais pas écrit ça. Et donc, je me suis retrouvée à porter une problématique. Mais Dieu merci, j'ai pu, par des chemins difficiles, mais toujours en trouvant des bonnes volontés, parce que ce n'est pas forcément un boulevard qui nous est ouvert, mais il y a toujours une petite porte qui est la bonne. Et j'ai pu continuer d'écrire, de publier et d'en parler. Et aujourd'hui, peut-être que ce livre cette problématique arrive-t-elle à maturité, et je suis reconnaissante d'ouvrir une porte aussi. Voilà.
Alors, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a une distinction à faire et qui est primordiale entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme de l'Église. Et puis, également, alors, les siècles des Lumières, les Lumières, ce sont les grands thèmes, d'ailleurs, qui sont actuellement cités quasiment... De façon quasi permanente, c'est tout le terme de liberté, d'égalité. Et on considère que c'est la Révolution française qui a émancipé les Juifs. Alors, comment, toi, tu définis cette émancipation?
Alors, je commence, si tu veux bien, par le début de la question que tu me poses sur la différence entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Le christianisme, lui, se base sur une révélation et sur un texte. Un texte de témoignage qui est le Nouveau Testament, avec toute une théologie qui est toujours écrite, qui donne lieu à une immense littérature, qu'elle soit juridique, qu'elle soit mystique, ou qu'elle soit de type rationnel, et avec un commentaire permanent de la Bible et des évangiles. Donc l'Église est solidaire des Juifs de ce côté-là. Nous avons des textes, une révélation et des paroles de témoignages. L'antijudaïsme de l'Église était le suivant: les Juifs étant déchus n'ayant pas reconnu la divinité et la royauté du Christ, sont déchus de la royauté terrestre et condamnés à errer misérablement de par le monde jusqu'à leur conversion à la nouvelle religion. Mais ils doivent vivre. Alors on peut leur faire du mal, il ne faut pas les tuer. Parce que s'ils disparaissent de la terre, les chrétiens risquent de redevenir païens. On trouve ça chez les pères de l'Église et très particulièrement chez saint Augustin. Donc les Juifs doivent vivre humiliés jusqu'à la conversion au christianisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs du texte, justement. L'Église reconnaît la valeur intrinsèque du texte. Ils sont porteurs du premier texte, qui est appelé Testament. Donc, les chrétiens sont garantis dans leur foi et dans leur existence par le fait que les Juifs portent le premier texte. Bon, à partir de la religion du cœur des Lumières, on ne veut plus de texte. Ni le premier, ni le deuxième. On veut plus de texte, on veut une religion où le cœur est simplement ouvert au divin, en dehors de toute littérature, de toute écriture, jusqu'à l'autosuffisance et l'autodivinisation. Donc, et c'est les Juifs qui vont fonctionner comme l'antimodèle. Et alors, ce que pensent les Lumières, enfin les auteurs que j'ai cités, à peu près tous, c'est que ça serait peut-être mieux qu'il n'y ait plus de Juifs sur Terre. C'est quelque chose que l'Église n'a jamais pensé, ni dit, c'est pas que, ni ni pas la moindre soupçon de désirer que les Juifs disparaissent de la terre, dans l'Église. Les Juifs sont intégralement partie de l'histoire de salut et sont les garants de la vérité du Nouveau Testament parce qu'ils portent le premier. Donc, c'est très différent. L'antisémitisme commence avec cette idée, ah ben l'Écriture, et il vaut mieux qu'il n'y ait plus de Juifs sur Terre. Voilà. Mais ça, tu l'évoques après, les Lumières, est-ce que c'est ça les Lumières? C'est pas, c'est, non, les Lumières, il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a ça.
Oui.
Il y a ce germe, ce petit poison qui va aussi donner lieu à des choses effroyables, c'est-à-dire à la naissance même de l'antisémitisme, c'est-à-dire on veut plus de Juifs sur Terre. On veut plus de Juifs sur Terre, et la raison, alors, les antisémites vont reprendre les mêmes descriptions des Juifs que l'Église, mais l'Église, c'était les Juifs doivent se convertir, et l'antisémitisme, ben les Juifs sont inassimilables, donc on va les, il vaut mieux qu'il y ait plus de Juifs sur Terre, et ça va se développer jusqu'aux horreurs de l'abomination de la Seconde Guerre mondiale, avec le premier clash trois générations après la Révolution, l'affaire Dreyfus, hein, l'affaire Dreyfus. Alors, est-ce que ce n'est pas un développement nécessaire des Lumières? Il y a autre chose dans les Lumières, mais il y a ça aussi. Et moi, je n'ai pas fait un doctorat contre les Lumières et contre la religion, les droits de l'homme. J'ai étudié cette doctrine de la religion du cœur, où j'ai vu un très grand danger. On pourra en reparler, parce que il y a dans la Révolution, dans la philosophie des Lumières, il y a des thèmes qui sont fabuleux. Et à un moment, ça c'est René Lévy, le fils de Béni Lévy, qui écrit un livre sur la Révolution française en ce moment, où il dit qu'il y a eu un moment dans la Révolution où d'accueil sous la loi, d'hospitalité sous la loi fabuleuse. Ça n'a pas forcément duré, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut exaucer et faire connaître. Alors que justement, dans la révolution, avec cette doctrine du cœur, vient parasiter la question de la loi. On le lit dans Saint-Just, c'est Anna Arendt qui me l'a fait découvrir dans son livre, son essai sur la Révolution. Saint-Just disant, il faut peu de loi, c'est le cœur qui compte. Voilà. Donc c'est le cœur ou la loi, finalement, c'est ça qui est en jeu. Et j'ai analysé, toujours sous l'inspiration des travaux d'Anna Arendt sur la Révolution, il y a toute une partie qui s'appelle... la grande partie de la pitié aux zèles compatissants, de la pitié aux zèles compatissants, parce que le zèle compatissant, c'était le nom du gouvernement de Robespierre. Oui. C'est la terreur.
On a vu où ça donnait.
Oui,
ça
voilà.
Donnait, nous sommes, nous, Français, à l'origine de tous ces mouvements terroristes.
Hein, voilà, c'est ça.
Le plus grand terroriste de l'histoire, celui qui a inventé le terrorisme, c'est ouais. Quelqu'un des Lumières.
Oui, oui.
C'est Robespierre.
Bon. Voilà. Et
qui est donc un personnage tout à fait effroyable en définitive.
Oui, oui.
Et qui était animé, lui, effectivement, parce qu'il était contre la peine de mort, hein, c'est Robespierre. Il y a des textes de Robespierre, qui sont de beaux textes d'ailleurs, mais qui est partisan de l'abolition de la peine de mort. Et c'est lui qui instaure le
règne de la guillotine.
Le règne de la guillotine.
Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé dans toutes les révolutions animées par l'idéologie du zèle compatissant. Le zèle compatissant, Anna Arendt le définit très bien, c'est aimer tous les malheureux de la terre sans en connaître aucun. Donc les têtes peuvent tomber, ça n'a aucune importance. Le prolétaire de tous les pays, pas d'un coup fin. À l'époque où elle a écrit, c'était son livre sur la Révolution, elle disait que la seule révolution qui n'était pas dans le zèle compatissant, c'était la révolution hongroise de 1956, qui a été si terriblement réprimée par l'URSS. Voilà.
Alors, une petite parenthèse, dans l'anti-judaïsme, il y avait dans les apôtres, hein, Saint Paul, Paul de Tarse, avait essayé de faire cette jonction, justement, entre la religion juive et le nouveau, la nouvelle religion. Il avait essayé, pour lui, il ne devait pas y avoir de rupture, c'était une...
Oui. Hein,
bon, et ça n'a pas été du tout compris. Donc ça aurait pu être autre chose.
Ça aurait pu être autre chose, étant donné, si tu veux, oui. Que... bon, moi, je lis beaucoup le Nouveau Testament. Je trouve que les Juifs, on a une clé de lecture du Nouveau Testament parce qu'on lit l'hébreu qui est sous le texte grec. Oui. Et comme ça a été... C'est un texte hébraïque, oui. C'est Claude Trémontant qui est sous-jacent, écrit par des hommes extrêmement savants. C'était pas les SDF, hein, les apôtres et les disciples, tout ça, pas du tout. C'était des gens très savants qui connaissaient le grec et donc qui ont utilisé le grec des Septante, c'est-à-dire la Bible hébraïque traduite en grec 300 ans avant Jésus-Christ, qui ont utilisé ce grec pour écrire le nouveau, pour traduire le nouveau texte hébreu dans un grec qui reprend toute la conceptualité des Septante et le vocabulaire des Septante. Donc on peut, par rétroversion hébraïque, lire le texte sous-jacent au Nouveau Testament. Donc Saint Paul, on peut le lire comme ça. Saint Paul, il transmet aux nations du monde quelque chose qui est issu du judaïsme sans que ce soit le judaïsme, tu vois. Et en fait, ce qui est parfaitement commun au message hébraïque ancien et au message qu'il transmet aux nations du monde, c'est la question du cœur. C'est le cœur n'est pas bon. Alors, il faut lire les passages les paroles de Jésus là-dessus. Et le cœur doit être circoncis. C'est ce qu'il nous enseigne dans l'épître aux Romains. Et là, c'est le message commun qu'il transmet aux nations du monde. Et tout est dans le texte biblique, Ancien et Nouveau Testament. Tout est là. Mais qui le lit? Lisons-le et parlons-en. Merci Radio Occitanie de permettre de parler de la Bible comme ça.
Alors, c'est un gros livre. Il y a plusieurs parties. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit peu un commentaire? Ça va montrer un petit peu l'architecture, comment ton esprit a pu structurer tout ça.
Alors donc, j'ai repris beaucoup de passages du premier livre, mais au fur et à mesure où je le reprenais, il y avait des horizons qui s'ouvraient que je ne connaissais pas avant. Donc c'est la première partie, la Révolution française et l'émancipation civique des Juifs. Oui. Donc c'est une étude de ce que la philosophie des Lumières dit des Juifs. On pourra y revenir. Là, on parcourait, Christian. Oui. La deuxième partie, c'est de la pitié aux ailes compatissants, parce que je me suis arrêtée dans la partie précédente vers une phrase d'Emmanuel Kant dans Le conflit des facultés, où il dit qu'il faut euthanasier le judaïsme. Donc comme l'euthanasie, c'est la mort par compassion, hein, donc je suis rentrée dans cette problématique de la compassion où j'ai rencontré Robespierre, les ailes compatissantes du gouvernement de la terreur. La troisième partie, c'est l'alliance ou l'anti-tragédie, c'est-à-dire que la tragédie qui est une pensée grecque, la tragédie, c'est l'homme est mortel, les dieux se sont détournés des hommes, l'homme est mortel, il endure sa mort et il va la nommer, que ce soit de façon lente comme Oedipe ou de façon rapide et brusque comme Antigone. Et ça, c'est exactement la façon dont la phrase de Jésus sur la croix est mentionnée, faussement traduite, qui est une phrase d'un psaume, et là-dessus, Méchonique, c'est lui qui a dévoilé toute cette question-là. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit ça. Mais il n'a pas dit ça. Parce que le texte hébreu ne dit pas pourquoi m'as-tu abandonné. Là, on est dans Antigone et dans Oedipe. Hein. On est dans Sophocle, Euripide, tout ça. Jésus dit, mon Dieu, à quoi m'as-tu abandonné? C'est pas la même chose. C'est pas tragique. C'est pas tragique, mais l'Occident qui s'est pensé dans des termes grecs en refusant l'hébreu, l'Occident a inscrit la tragédie et le détournement du divin. Donc les dieux s'étant détournés, l'homme est seul, jusqu'à ce que le cœur émerge qui va remplacer Dieu, Et ça, j'ai retrouvé ça dans Heidegger. Alors, on dit que Heidegger, c'est pas les Lumières. Oui, d'accord. Mmh. La lettre sur l'humanisme et tout. Mais Diderot et Heidegger disent la même chose sur le cœur. Mmh. Le cœur, il n'y a que le cœur qui reste ferme et stable. Voilà. Parce que les dieux sont partis. Et je savais pas ça, j'ai découvert. Mais c'est eux qui le disent, c'est pas mon opinion sur eux, hein. Voilà. Je suis revenue vers Heidegger et j'ai découvert ça. C'est plein de passages. Alors, avec
quelle est la thèse, est-ce que tu la connais, la thèse officielle, par exemple, de l'Église catholique sur cette phrase?
Il n'y a pas de thèse officielle. Non. Parce que
c'est toujours maintenu dans le pourquoi?
Il n'y a aucune thèse puisque oui. c'est mal traduit. Oui. Et que l'Église, dans la mesure où elle pense en grec...
Chouraki, il le traduit comment?
Je me souviens, je ne sais pas, mais il n'y a que Méchonic qui, je crois.
Ouais.
C'est
oui.
l'accent tonique sur oui. le lama.
C'était son grand travail, là.
Oui, de la traduction des psaumes. C'est l'accent tonique sur la deuxième syllabe qui fait que ce n'est pas le mot pourquoi.
Ah oui.
Dieu n'a pas abandonné.
Comme quoi, c'est ça change, extraordinaire.
Ça change absolument tout.
Le signe, dans l'écriture, hein, le signe. On a fait une émission avec Philippe Berthaud, qui a fait un livre là-dessus, où effectivement, il suffit de rien. Quoi. D'une lettre, Edmond Jabez, par exemple, démontre ça d'une façon magistrale. Un simple signe, etc., et on va tout changer.
Mauvaise
interprétation de signe ou un signe qui a été mal orthographié et le monde change.
On m'a envoyé un petit truc.
La force de l'écriture.
L'inspectrice dit la maîtresse ne donne pas un bon enseignement. Ou alors tu dis l'inspectrice, virgule, dit la maîtresse, ne donne pas un bon enseignement.
Voilà, deux virgules qui vont changer complètement.
C'est une chose et son contraire.
Voilà.
Hein? Qui vont, oui. D'accord.
Oui.
Okay.
Oui.
Je te l'avais envoyé.
D'où l'importance de l'écrit.
De l'écrit.
Ouais.
Je continue les parties.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc, l'image. Alors, l'alliance ou l'antitragédie, parce que l'alliance. Si le Nouveau Testament s'appelle, tu vois, ils ont choisi diathéqué, ça veut dire alliance et testament, mais ça a été traduit par testament en général dans notre monde parce que notre monde est riche de la tragédie. Si c'était nouvelle alliance, c'est autre chose, tu comprends? Dieu n'est pas mort. D'accord. Bon, l'autre partie, c'est image et ressemblance à Dieu dans la création et les naissances humaines, étant donné que la doctrine du cœur, c'est une doctrine de la stérilité. Il n'y a pas d'autre. Alors que l'image et la ressemblance à Dieu se poursuit dans les naissances humaines, dans le texte biblique, et également dans le Nouveau Testament, ouais. où Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, tient à préciser que Jésus est né d'une femme, tu vois. Il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter.
Oui.
Et la dernière partie, une intime extériorité, la circoncision du cœur. Donc c'est une approche de ce que la Bible hébraïque et le Nouveau Testament nous invite dans notre monde à pratiquer, c'est-à-dire la circoncision du cœur, pratiquer cette petite ouverture qui fait que je ne suis pas seule au monde et que j'ai des comptes à rendre et que l'autre existe. Voilà. Et que nous ne sommes pas abandonnés.
Alors, c'est un gros livre, hein, quand même. Hein. Il y a plus de 300 pages. Plus de 320 pages. 320 pages, exactement, dont de textes. Hein. Donc, c'est un travail qui, effectivement, tu viens de le dire, c'est un travail qui a été appris depuis dans toutes ces années. Hein. Et qui est quand même ton grand œuvre là.
Oui, je crois. Je crois. Et alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Oui. Alors, moi, je te suggère aussi, parce que, Monique Liswen, tu as publié également des livres de poésie.
Oui, voilà. Oui.
Et je crois qu'il faut revenir un petit peu à la poésie.
Oui.
Hein, digérer ça, parce que, bon, c'est un livre qui demande quand même une lecture attentive et lente. Il faut pouvoir... bien avoir la macération hein, de tout ça. Parce
en fait,
que...
il est simple, hein, ce livre.
Oui,
mais si on veut bien se départir des idées toutes faites oui, qu'on a, ça, des lunettes obstruées des lumières,
Il faut, comme tu dis, se départir des idées reçues, qui sont des idées faciles. C'est-à-dire, bon, ça, souvent les idées reçues ne sont rien d'autre qu'un signe de paresse.
Oui, voilà. Oui.
Et l'homme est ô combien paresseux, ce qui, moi, ne me semble pas, me semble dans la normalité de cette espèce d'hédonisme de lequel tend de temps en temps l'homme, hein, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut remettre, il faut travailler, il faut, là aussi, c'est par la réflexion et le travail que l'on peut gagner justement le discernement des choses. Voilà. Et pour ça, il faut lire « Les Juifs ont-ils du cœur une intime extériorité » de Monique Lise Cohen aux éditions Horizon. Merci beaucoup.
Mais on peut dire que je vais le présenter à la librairie.
Tu vas alors présenter à notre librairie Ombre Blanche.
Ce sera le 26 mai.
Alors, c'est quel jour tu vas le présenter?
Le jeudi 26 mai, je crois que c'est à 17h. Et il y aura Daniel Cohen, mon éditeur.
Il sera là,
Daniel, oui. Oui, oui,
très voilà. Bien. Alors, c'est
un jeudi.
À noter, donc jeudi.
26 mai.
Jeudi 26 mai.
À 17h, à Ombre Blanche.
Ombre Blanche, avec l'éditeur également qui sera présent. Et nous le mettrons, bien entendu, sur notre site les-poètes.fr. Merci.
Merci, Christian.
À très bientôt, donc
bientôt.
De toute façon, à Ombre Blanche, à très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Citanio, et nous vous disons, comme toujours, à la semaine prochaine. Alicias.
Alicias.